Et donc, je vous invite ce matin à trouver le passage dans Matthieu, chapitre 6. Et ce matin, nous allons lire les versets 5 jusqu'à 15. Matthieu, chapitre 6. Les versets 5 à 15. Passage bien connu dans cet évangile selon Matthieu. Lorsque vous priez, écoutez, il ne dit pas si vous priez, mais lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, quand on prend le contexte de tout ce qu'enseigne la Bible, Jésus n'est pas en train d'interdire le fait de prier à voix haute, même debout. Lorsque l'Église est réunie, il y a d'autres textes qui nous encouragent à le faire, qui nous encouragent à nous édifier les uns les autres par nos prières, qui nous encouragent donc à prier de manière à ce que nos frères et sœurs puissent aussi dire Amen à nos prières. Mais Jésus souligne cet amour d'être vu par les hommes, de prier que pour les hommes. Alors, aucun souci de prier à l'église si on est en train de prier ensemble de notre Père, mais de ne pas le faire que pour être vu et entendu par les hommes. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Mercredi dernier, donc, dans la réunion de prière, on a regardé depuis le texte d'Éphésiens comment parfois la prière nécessite de la persévérance, qu'il est important qu'on continue à prier, qu'on ne baisse pas les bras, qu'on ne perd pas confiance dans notre Père, mais qu'on continue à prier. Mais on a vu que parfois, si on a besoin d'appliquer de la persévérance, pour notre nature humaine, c'est souvent assez difficile. On est rarement très persévérant. Notre chair a tendance vite à lâcher et à passer à autre chose. Mais la Bible nous encourage à persévérer. Même donc dans Éphésiens 6, 18, on avait vu que Paul dit « Veillez à cela avec une entière persévérance ». C'est comme, sans doute, si l'apôtre Paul avait eu accès à Microsoft Office, il aurait mis cela en caractère gras, plus grand, souligné, parce qu'il dit veiller avec une persévérance qui n'est pas même une simple persévérance, mais une entière persévérance. Donc, il souligne trois fois le point qu'il veut dire veiller à prier avec une entière persévérance et prier pour tous les saints. Même si donc, dans ce passage, il commence par parler de faire par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Ça veut dire qu'il y a des prières, d'une certaine sorte, qui vont nécessiter plus de persévérance, sans doute, que d'autres. Il y aura des thèmes pour lesquels nous prions, ou peut-être ça va prendre notre vie entière. Et peut-être parfois on va persévérer dans la prière jusqu'au bout sans encore voir la réponse. On raconte l'histoire de l'évangéliste américain du fin du 19e siècle, D.L. Moody, qui s'était dressé une liste de 10 amis pour lesquels il priait avec persévérance tout au long de sa vie pour leur conversion. Au moment de sa mort, ils ont dit que 7 des 10 amis se sont convertis. Et puis il relate que les 3 autres se sont convertis lors de son enterrement. Il y a des prières qui prennent toute une vie de persévérance, de discipline. Mais d'autres aspects de notre vie de prière devraient être plus faciles, devraient au contraire être plutôt un plaisir, parce que la prière, ce n'est pas uniquement combattre, ce n'est pas uniquement plaider dans la cause de quelque chose pendant des années parfois, mais la prière, c'est aussi venir dans la présence de notre Père. Venir dans la présence de celui que nous aimons. Généralement, si les gens s'aiment, et ce n'est pas difficile, ce n'est pas lourd de se trouver dans leur présence. Au contraire, les jeunes amoureux généralement sont prêts à courir pour se retrouver. Donc la prière devrait être, par certains aspects, un plaisir et donc facile pour nous, parce que nous entrons dans la présence de notre Père. Lorsque vous priez, dites « Notre Père ». En français, justement, cette prière que nous venons de lire et qui est souvent priée, souvent citée, en français, s'appelle justement le « Notre Père », puisque ce sont les deux premiers mots de la prière que Jésus a enseignée. Justement, en anglais, ça s'appelle plutôt la prière du Seigneur, puisque c'est la prière que le Seigneur Jésus a enseignée. Dans Luc chapitre 11, la version que Luc nous donne de cette prière, lui, il nous donne d'autres éléments concernant le contexte en disant « Jésus priait un jour en un certain lieu ». Et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Sans doute les disciples voyaient Jésus qui parfois passait des nuits entières en prière, qui régulièrement allait auprès de son Père pour prier. Et ils ont dit bah, « Aide-nous à avoir la même vie que de prière que toi tu as. » Et donc il leur dit, quand vous priez, dites Père. Cette relation entre cette prière et la personne de Jésus est encore bien plus profonde, bien plus fondamentale que simplement le fait que ce soit Jésus qui l'a enseigné. Lorsque Jésus l'a enseigné, lorsque il a donné cette prière ou cette manière de prier à ses disciples, il commence par deux mots qui sont tellement chargés de sens quand on pense à la personne qui a dit ces mots. Quand vous priez, dites « Notre Père ». Ça pourrait juste sembler une formule à appliquer jusqu'à ce qu'on se rappelle que ce soit Jésus qui ait prononcé ces paroles, qui a dit à ses disciples « Quand vous priez, je vous encourage, je vous invite à prier notre Père. » C'est comme si Jésus, le Fils de Dieu, on l'a chanté ce matin, qu'il est ce Fils dans la Trinité, il nous invite à entrer dans cette relation avec son Père, ou c'est à lui, son Père éternel. C'est vrai que les mots « notre Père » nous rappelle notre relation les uns avec les autres, nous rappelle qu'on n'est pas tout seul dans notre coin à vivre la foi, qu'on n'est pas le seul chrétien, qu'on n'est pas la seule personne à être en relation avec Dieu. D'ailleurs, quand après on regarde dans les épîtres, l'apôtre Paul en particulier souligne le fait que Dieu a constitué l'Église de telle façon qu'on ne peut pas vivre notre foi tout seul dans notre coin, sauf si parfois, lorsque des chrétiens, par exemple, sont mis en prison ou autre, où Dieu va faire une grâce particulière, Dieu nous dit que son plan normal pour nous, c'est que nous soyons un membre d'un corps. Et que c'est au corps qu'il parle, que c'est à travers le corps qu'il parle, que nous sommes unis les uns aux autres et ont besoin les uns des autres, et que pour avoir accès à la totalité de ce que Dieu veut me dire, j'ai besoin d'être en communion avec mes frères et sœurs, les autres membres de ce corps, pour pouvoir vraiment capter ce que Dieu veut dire, tantôt par l'un, tantôt par l'autre, tantôt à l'un et à l'autre. Et donc nous avons ce statut commun également d'être chrétien, non pas par nos mérites, mais par la grâce de Dieu. Et donc, il est effectivement notre Père dans ce sens de relation entre nous, mais il est surtout le Père éternel du Fils éternel de Dieu, qui est Jésus-Christ. Et c'est donc parlant que ce soit Jésus qui dit à ses disciples, adressez-vous à notre Père. Je vous invite à devenir mes frères et sœurs, à devenir enfants de mon Père. Et je vous invite donc à vous adresser à notre Père commun. En Hébreux 2, l'auteur souligne cette relation quand il dit dans le verset 11, « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. » C'est pourquoi il, en parlant de Jésus, n'a pas honte de les appeler frères. Donc, celui qui n'a pas honte de nous appeler frères, dit, lorsque vous priez, dites « Notre Père ». Romains 8 le soulignait également quand Paul dit « Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Rien que dans cette prière, Jésus reconnaît cette réalité en disant « Je vous autorise, je vous invite à vous adresser à notre Père. » Jésus est donc celui qui nous invite à entrer dans cette relation avec le Père. Il est celui qui rend cette relation possible également, comme on a vu la semaine dernière. Jean 14, verset 6. « Nul ne vient au Père que par moi. » Et ce Jésus qui nous permet de venir au Père nous dit « Quand vous priez, dites « Notre Père ». Et Romains 5 verset 1 et 2 nous dit que nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. C'est par Jésus que nous entrons en relation avec le Père. Et donc Jésus nous invite à nous adresser à notre Père. Jésus déjà souligné cette relation que nous allions pouvoir vivre avec notre Père comme ses frères et sœurs, comme co-héritiers avec lui. Il nous invite à partager donc cette intimité. Puisque finalement, dans Marc 14, verset 36, nous voyons Jésus qui s'adresse dans ses prières à Abba, Père. Et donc après, vu que celui qui pouvait le premier dire Abba, Père, puisque lui, il dit à ses disciples, lorsque vous priez, dites notre Père, l'apôtre Paul après va pouvoir dire aux Galates, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Soulignons donc cette relation que nous avons. Et en Romains 8, 15, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'esprit de son Fils, l'esprit donc qui était en Jésus, l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, devient pour nous esprit d'adoption, ce sceau que Dieu met sur nos vies pour dire que nous sommes bel et bien devenus enfants de Dieu par sa grâce en Jésus-Christ, fait l'écho de l'enseignement de Jésus en criant « Abba, Père ». Tout à l'heure, nous avons chanté au sujet de ce Dieu trinitaire qui finalement pour nous reste un mystère. On a un seul Dieu, fondement de l'Ancien Testament. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un, il est unique. Il n'y en a pas d'autre. Et pourtant, nous avons un Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Quelque part, ça nous dépasse d'être à la fois trois et à la fois un. Un seul Dieu, mais trois personnes. Mais pas trois dieux, un Dieu en trois personnes. Et dans ce mystère de la Trinité, la Bible nous dit que le Père a choisi le Fils éternel comme moyen pour que nous puissions nous approcher de lui, pour que nous puissions le connaître. Dieu a décidé qu'il voulait se faire connaître à nous. Il voulait qu'on soit à nouveau en relation avec lui, comme il avait prévu dès la création. Et donc, pour cela, il envoie le Fils pour nous ouvrir le chemin, pour nous inviter, pour rendre possible cette relation. En Matthieu chapitre 11 et le verset 27, Jésus disait « Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Pour cela que la semaine dernière, j'ai pu souligner le fait que il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés, même s'il n'y a qu'un seul Dieu. Jésus dit le seul moyen de connaître ce seul Dieu, c'est de venir à travers moi. On ne dispute pas le fait avec ceux qui disent « mais il n'y a qu'un seul Dieu ». C'est vrai. Mais Jésus dit clairement, c'est par moi qu'il a décidé de se faire connaître. C'est par moi que vous allez pouvoir venir à moi. Donc, livre des actes, il n'y a aucun autre nom donné par lequel nous puissions être sauvés, que ce nom de Jésus. Jésus qui dit « Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » D'où nul ne vient au Père que par moi. Dans ce mystère de la Trinité, Dieu le Père, le seul vrai Dieu, le Créateur de tout, a choisi, Jésus a choisi d'envoyer le Fils pour que nous puissions le connaître. Et donc la Bible nous dit que si nous suivons Jésus, si nous invoquons son nom, si nous mettons notre confiance en lui, si nous appliquons son enseignement à lui, nous entrons par grâce en relation avec le Père. Ce n'est pas que nous obéissons à ses commandements et donc, comme récompense, Dieu se révèle à nous. Jésus nous révèle qui est le Père et il dit « Si vous voulez venir au Père, alors suivez-moi. » Et en le suivant donc, nous nous trouvons en relation avec le Père par grâce, cette grâce que Dieu veut bien nous faire, de se faire connaître à nous comme un Père. Dans Jean chapitre 1, en parlant de ce Fils éternel qui au commencement était avec Dieu et était Dieu, là aussi on voit le mystère de ce Dieu trinitaire. Le Fils au commencement, donc depuis l'éternité, était avec Dieu et était Dieu. Ce Fils, nous dit l'apôtre Jean, est venu aux siens, puisque donc finalement il est venu premièrement chez le peuple juif, c'est chez ce peuple élu par Dieu. Mais Jean nous dit, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Si nous croyons au nom de Jésus, Jésus donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. D'où Jésus qui dit à ses disciples, « Lorsque vous priez, dites notre Père. » Puisqu'il nous a rendus capables d'avoir cette relation avec Dieu le Père. Et justement, intéressant de voir, après sa résurrection, en Jean 20, verset 17, Jésus parle de « Mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu ». Il nous invite donc à entrer avec lui et par lui dans cette relation d'intimité avec le Père où Dieu n'est plus quelqu'un d'éloigné, n'est plus quelqu'un inconnaissable, mais il est celui qui veut venir être notre Père. Et donc nous pouvons l'appeler notre Père. Lorsque vous priez, dites notre Père. Ça souligne donc cette relation que nous avons avec le Père à travers la personne de Jésus. Dans sa première lettre, l'apôtre Jean, après, va montrer le fondement de cette relation que nous avons, du coup, de cette grâce, ce privilège que nous avons de connaître le Père, de connaître Dieu le Créateur comme notre Père, quand il dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu ». Je ne sais pas si ce matin, vous vous sentez particulièrement aimé. Peut-être, pour certains, il y a effectivement peu de gens dans ce monde qui vous aiment, qui vous montrent de l'affection. Mais la Bible nous dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Cet amour devrait être le fondement de notre vie. Pas besoin de vivre dans l'instabilité, de vivre dans cette impression que personne ne s'intéresse à nous, que personne ne nous aime. Nous avons, quoi qu'il nous arrive sur la terre, comme fondement de base de notre vie, cet amour que le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Souvent on dit, un peu méchamment, que certains enfants sont qu'un accident de naissance. Dieu n'a pas d'enfant par accident de naissance. Tout enfant de Dieu a été choisi par lui, adopté par lui. C'est ça le statut que nous avons en tant que chrétiens. C'est pour cela que nous devrions déjà pouvoir être en paix si on est chrétien, avoir ce fondement stable et solide dans notre vie, puisque ça veut dire que Dieu le Père, le seul vrai Dieu, le Créateur de tout l'univers, a choisi de faire de nous ses enfants, a choisi de nous adopter et de nous hisser au même rang que Jésus-Christ. D'où Jésus qui dit, lorsque vous priez, dites, notre Père. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Il dit, ce n'est pas juste une histoire, ce n'est pas juste un titre qu'il donne honorifique. Il dit, nous sommes réellement devenus, par la grâce de Dieu, les enfants de Dieu. Et ajoutons donc ce qu'on vient de lire de l'apôtre Paul en Romains, et si enfants, aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Encore, aucune raison donc en tant que chrétien de se sentir dans une insécurité quelconque, puisque nous sommes héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. Pour ça qu'on n'a pas besoin non plus de craindre la mort. Ça n'a aucune raison d'être un sujet tabou chez les chrétiens, puisque nous savons où nous allons. Nous savons ce qui nous attend. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, ben, franchement, je ne sais pas quoi choisir. Bon, d'un côté, je sens que Dieu a quelque chose que je fasse parmi vous, mais si vous n'étiez pas là, je serais plus que content de partir. Comme ça, je serais avec mon Père. Je serais entré dans ce qui m'attend. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui. Si donc, dans ce monde, on ne vous compte pas particulièrement, peu importe. Cela ne devrait pas nous déprimer. Oh, il m'a regardé méchamment. Il ne m'a pas parlé gentiment. Il ne m'a pas traité comme j'aurais dû être traité. Et alors, qu'est-ce que c'est à côté du Père éternel qui a choisi de faire de toi son enfant? Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Pour ça, justement, j'ai dit l'autre fois que va passer tout son temps dans la salle de sport, ça va, mais qu'est-ce que c'est avoir un corps bien musclé pour quelques années au plus, par rapport au fait que lorsque Jésus paraîtra, nous serons semblables à lui, avec un corps ressuscité. Les muscles à côté de la résurrection, ce n'est rien. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Jean est bouleversé par le privilège que nous avons en tant que chrétiens d'être devenus enfants de Dieu, donc de pouvoir l'appeler notre Père. Ce privilège est donc fondé dans l'amour de Dieu pour nous, qui est d'ailleurs également souligné tout au long du Nouveau Testament par le mot souvent employé pour les chrétiens, d'élus. Paul souligne l'importance de ce terme dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur. Déjà, cette phrase est magnifique, n'est-ce pas? Frères bien-aimés de Dieu. Nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Dieu vous a choisi. Tite, chapitre 3, verset 5, nous dit qu'il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Donc ce choix, ce n'est pas dû à quelque chose en nous. Ce n'est pas que nous sommes au-dessus des autres, meilleurs des autres, ou qu'il y ait quelque chose de particulier en nous qui justifierait le choix de Dieu. Mais Dieu nous a, dans sa grâce, choisis. Justement, ça souligne encore plus le privilège que nous avons en tant que chrétiens. Dieu avait toutes les raisons de ne pas nous choisir, de ne pas faire de nous ses enfants, de s'en laver les mains. Mais au lieu de cela, Dieu nous a montré son amour immérité et nous a choisis pour faire de nous ses enfants, ses héritiers, sur le même statut, le même niveau que Jésus lui-même. D'où Romains 5, verset 8. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est à 100% le choix de Dieu. Un choix incroyable, inimaginable, choix fait dans sa grâce, mais choix qu'il a fait quand même. Choix de nous donner ce statut par lesquels nous puissions l'appeler notre Père. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus dans le monde. 2 Corinthiens 5, 19. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Dieu a choisi de nous réconcilier avec lui, de nous inviter à travers Jésus de pouvoir l'appeler notre Père. Lorsque vous priez donc, dites « Notre Père qui est aux cieux ». Là aussi, il ne s'agit pas simplement d'une expression, d'un titre, mais d'une réalité. Si nous venons à Dieu par Jésus-Christ, nous avons à partir de là un Père dans les cieux. Donc un Père omniprésent. Toujours là avec nous, où qu'on soit. D'où Jésus dit, vous pouvez très simplement vous enfermer dans votre chambre pour prier. Parce que votre Père, qui est là, qui voit dans le secret, vous écoutera et le rendra. Ayons un Père dans les cieux. Là aussi, plus besoin d'avoir peur où qu'on se trouve. plus besoin de se sentir seul. Justement, lorsque on a visionné la remise de diplôme de Rodrigo, une des personnes a parlé du fléau de la solitude et des statistiques concernant les sentiments de solitude dont notre monde souffre actuellement. Si nous avons notre Père, on n'est pas dans la solitude, parce qu'on n'est pas seul, parce que notre Père est là, même dans le secret, même lorsqu'on est tout seul dans une pièce, lui, il est là avec nous par son esprit. Il est omniprésent, il est omniscient, il sait déjà tout. Il n'est pas surpris par nos circonstances, il n'est pas surpris par ce qui nous arrive, nous le sommes souvent, mais lui jamais. Lui, il sait toutes choses, donc rien ne lui échappe. Verset 8. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le demandiez. Et il a la puissance, le pouvoir de pouvoir combler tous nos besoins. D'où, un peu plus loin dans le verset 9, il parle du Père dans les cieux qui donne de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. En même temps, ce n'est pas un Père gâteux, c'est un Père qui gère sa famille avec sagesse, avec amour, qui donc parfois doit nous reprendre. Hébreux 12 nous rappelle, si vous êtes réellement enfant de Dieu, alors votre Père parfois doit vous remettre sur le droit chemin, tout comme tout parent avec son enfant. Mais la Bible nous souligne que tout cela est motivé par amour. Pour nous donc, qui sommes pères chrétiens dans cette vie, l'amour du Père pour nous doit être notre modèle de notre amour pour nos enfants. Et pour nous qui sommes enfants, et finalement, je crois ne pas me tromper en disant que chaque personne qui est là aujourd'hui, vous êtes l'enfant de quelqu'un. Là, finalement, peu importe quelle relation nous avons eue avec notre Père terrestre, peu importe son caractère, peu importe comment il gérait les choses, si cette relation était mauvaise, sachons qu'en Dieu le Père, nous trouvons le Père idéal. Nous avons donc à partir de là une relation solide, une relation fondée dans celui qui est le Père idéal. Pour ceux d'entre nous qui ont eu une très bonne relation avec leur Père terrestre, sachez que notre Père qui est dans les cieux est bien au-delà même de ce bon Père qu'on a pu connaître sur terre. Puisqu'il est le Père idéal, il est la définition de ce que c'est être Père. Dieu donc, dans sa grâce, dans son amour, a choisi de nous donner le droit et le moyen de l'appeler notre Père, de vivre cette relation avec lui, d'être ses enfants et de pouvoir nous tourner vers lui, de pouvoir vivre dans cette intimité avec notre Père.